Imaginez un instant avec moi que vous vivez dans les années 1850, à l'époque de Anne au pignon vert. Vous avez lu ces livres-là, Anne of Green Gables. 1850, vous êtes à cette époque-là et vous entendez parler d'un homme qui s'appelle Joseph Bates, qui est un capitaine de bateau à la retraite et qui est devenu un défenseur acharné du sabbat. Et vous vous demandez, c'est quoi cette histoire du sabbat? Alors, vous commencez à lui écrire une belle lettre avec plein de questions sur le sabbat. Et la lettre va mettre du temps parce que email, il faudra encore inventer ça beaucoup plus tard. Et puis, longtemps après, vous recevez une lettre de Joseph Bates, une belle lettre qu'il a écrite à la main. Et avant d'arriver à la signature, vous lisez cette courte phrase. « Yours in the blessed hope ». Cordialement, dans la bienheureuse espérance. Joseph Bates avait pris l'habitude de signer ses lettres de cette manière-là. Cordialement, dans la bienheureuse espérance. Et un petit peu plus tard, Uriah Smith, qui était aussi un pionnier de l'Église adventiste, qui a été rédacteur de la revue adventiste pendant de nombreuses années, lui aussi avait pris l'habitude d'écrire cette phrase à côté de sa signature, parce que la bienheureuse espérance était pour ces gens-là quelque chose de vrai, quelque chose de vivant. Où ont-ils trouvé cette formule-là? Où ont-ils trouvé cette expression, la bienheureuse espérance? Ils l'ont trouvée dans un texte que nous pouvons lire ensemble, et je vous invite à ouvrir ce texte avec moi dans l'Épître de Paul à Tite, au chapitre 2. Épître de Paul à Tite, chapitre 2, au verset 11, il est écrit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. En attendant la bienheureuse espérance. Et c'est vrai que cette bienheureuse espérance, nous en avons parlé en tant qu'adventistes depuis longtemps. Voilà plus de 150 ans que Joseph Bates et Uriah Smith signaient leurs lettres de cette manière-là. Mais est-ce qu'il se pourrait que, à force d'en avoir parlé et parlé, cette bienheureuse espérance se soit un peu, qu'elle se soit un peu atténuée, qu'elle se soit finalement peut-être même éteinte? Est-ce qu'il se pourrait que, à force d'en parler, à force de le prêcher, de parler des prophéties et de leur accomplissement, on ait oublié que finalement, il viendra bien un jour où ce dont nous avons parlé sera la réalité? C'est vrai, pour les pionniers de l'Église adventiste, cette bienheureuse espérance était une réalité quotidienne. Ils l'ont vécue très fortement lorsqu'ils attendaient pour de bon le retour de Jésus un certain jour. Mais même si Jésus n'est parvenu au jour où ils pensaient eux, il est clair que cette bienheureuse espérance va se réaliser réellement un jour. Alors que contient-elle cette bienheureuse espérance? De quoi est-elle faite? Alors permettez ce matin que je partage avec vous les 7 composantes de la bienheureuse espérance. Cette bienheureuse espérance est constituée de 7 éléments qui font la base de notre foi, de notre vie chrétienne. Permettez que nous les revoyions ce matin rapidement. La première composante de cette bienheureuse espérance, c'est la grâce de Dieu. Dans le texte que nous venons de lire, vous avez remarqué au verset 11, dans l'épître de Tite au chapitre 2, il est dit dès le début, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » C'est par là que ça commence. La bienheureuse espérance, elle repose d'abord sur la grâce, sur la bonne nouvelle que nous donne la parole de Dieu, du salut par la foi en Jésus-Christ par rapport à ce qu'il a fait pour nous sauver. Tout commence là. Et on pourrait prendre de nombreux textes. Permettez que je n'en prenne qu'un seul parmi la foule de textes que l'on pourrait citer dans les Écritures pour souligner cet aspect-là. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, au verset 23, il est dit ceci. Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 23, il nous est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Si vous avez l'impression que Paul se répète, eh bien vous avez raison, parce qu'il emploie ici quatre mots qui sont, c'est vrai, un peu différents les uns des autres, mais qui veulent tous insister sur cette même idée. Gratuitement, justifié, grâce, rédemption. Tous des éléments qui nous rappellent que le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ nous a été offert. Il nous est donné. Il nous est donné grâce à ce que Jésus a accompli pour nous. Et nous n'avons aucun moyen de mesurer l'ampleur de ce que Jésus a fait pour nous. Nous n'avons pas les moyens de le mesurer parce que nous ne sommes que des êtres humains. Lui était Dieu aussi. Et je comprends que toute l'éternité va nous occuper à comprendre la profondeur de ce mystère extraordinaire qu'est le sacrifice de Jésus pour nous. Dans la première épître de Paul à Timothée, il est écrit encore ceci, très personnalisé cette fois. L'apôtre Paul écrit à Timothée dans sa première épître au chapitre 1er, au verset 15. Première épître de Paul à Timothée au chapitre 1er, au verset 15, il dit ceci. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Et nous pourrions tous dire cela, parce qu'en réalité, il est venu pour chacun d'entre nous. S'il n'y en avait eu qu'un seul, il serait venu quand même pour celui-là. En Jésus-Christ, nous avons cette grâce extraordinaire d'être cachés devant Dieu. Et ainsi, lorsque Dieu nous regarde, ce n'est pas nous qu'il voit tel que nous sommes, il nous voit tel que nous sommes en Jésus-Christ. L'apôtre Paul prend cette expression dans l'Épître aux Colossiens, nous sommes cachés en Dieu par Jésus-Christ. Si bien que lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde comme si nous n'avions jamais péché. Oh, c'est sûr, nous avons accumulé le long du chemin beaucoup d'erreurs et de transgressions. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. La bienheureuse espérance, c'est la bienheureuse espérance d'avoir un sauveur. La bienheureuse espérance n'est pas une doctrine, la bienheureuse espérance, c'est une personne, et cette personne, c'est Jésus. C'est le premier élément constitutif de cette bienheureuse espérance, c'est Jésus notre sauveur. Le deuxième élément que j'aimerais partager avec vous concernant cette bienheureuse espérance est lié au premier, bien entendu, c'est la promesse de la vie éternelle. Regardez avec moi dans la première épître de Jean, première épître de Jean au chapitre 5. Jean écrit ceci au verset 12. « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » L'apôtre Jean écrit ici quelque chose d'extraordinaire. Il ne dit pas « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous aurez la vie éternelle. » Il dit « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » C'est quelque chose que nous recevons maintenant. L'apôtre Jean nous explique ici qu'il peut nous donner l'assurance que nous avons la vie éternelle, à condition toutefois que nous ayons accepté que Jésus soit notre sauveur personnel. Un peu plus tôt dans son texte, au chapitre 2 et au verset 25, Jean est très clair. Il dit, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Nous avons du mal à comprendre que cette vie éternelle va devenir un jour une réalité parce que nous avons nous-mêmes du mal à comprendre ce que c'est que l'éternité, du temps qui ne finit jamais. Nous n'arrivons pas à comprendre ça parce que tout a un début et tout a une fin dans notre compréhension des choses. Déjà, nous n'arrivons pas à comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Nous n'arrivons pas non plus à comprendre vraiment ce qu'il nous offre, ce qu'il nous donne. Et pourtant, un jour, cette vie éternelle commence. Elle commence lorsque nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel. Et s'il nous faut dormir un petit moment entre-temps, ce n'est pas grave, cette vie éternelle nous est donnée parce que nous recevons par la foi Jésus comme notre Sauveur. Seulement cette espérance que nous avons aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle s'est érodée? Est-ce qu'elle s'est modifiée? Est-ce qu'elle s'est affaiblie? Ce en quoi nous espérons, qu'est-ce que c'est? Est-ce que nous espérons que le monde va continuer et que ça va aller en s'améliorant, que ça ira mieux? Parlez aux gens des difficultés que l'on rencontre dans le monde d'aujourd'hui et les plus optimistes vont vous dire « Oh, mais il y a toujours eu des difficultés, c'est un mauvais moment passé, mais ça ira mieux, vous verrez. » Votre espérance, qu'est-ce que c'est? C'est que vos enfants aient une vie meilleure? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes venu ici, pour que vos enfants aient une vie meilleure? C'est ça votre bienheureuse espérance? Votre bienheureuse espérance, est-ce que c'est de pouvoir arriver à la retraite avec un patrimoine suffisant pour transmettre à ceux qui sont derrière vous? Votre bienheureuse espérance, est-ce que c'est de rétablir un peu de justice sur la terre, parce qu'il n'y en a pas ou parce qu'il y en a de moins en moins? Votre bienheureuse espérance, est-ce que c'est d'avoir finalement une carrière qui brille au soleil économique dans le monde d'aujourd'hui? Assurer une carrière, assurer l'avenir, assurer le bien-être de ma famille? C'est en ça que vous espérez? Ou bien, pour prendre un sujet différent, votre espérance, est-ce que c'est d'avoir dans l'Église une place respectée, un poste intéressant, une autorité? C'est quoi notre bienheureuse espérance? En quoi notre bienheureuse espérance de l'origine s'est-elle transformée, modifiée, érodée, réduite? La bienheureuse espérance, c'est la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus. Deuxièmement, c'est la promesse de la vie éternelle. Moins que cela ne vaut pas la peine d'espérer. La troisième composante de la bienheureuse espérance, c'est une transformation que le Seigneur nous propose. Alors je reviens à ce texte de l'épître de Paul à Tite. Reprenez ce texte avec moi si vous voulez bien. Au verset 11, il nous était dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Au verset 12, la conséquence de cela est présentée. Il nous est dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance. Bonne nouvelle, il y a une transformation que Dieu veut établir et produire en nous. Dieu ne veut pas nous laisser dans l'état où nous sommes. Dieu nous propose de ressembler à celui avec qui nous allons passer le reste de l'éternité. Il y a une transformation que Dieu veut opérer. C'est là peut-être que nous avons le plus de mal. Vous savez, nous aimons les choses qui sont stables et qui continuent. Changer d'habitude, c'est difficile. Les changements sont difficiles pour nous. Et on entend bien des gens qui disent, écoutez, moi je suis comme ça, prenez-moi comme je suis, après tout. Et on réalise en ouvrant la parole de Dieu que le Seigneur veut non seulement changer les défauts que nous avons acquis avec le temps, mais le Seigneur voudrait aussi changer les défauts que nous avons reçus. Ce que nous avons reçu à la naissance, ces faux plis du départ, tout cela, le Seigneur voudrait les transformer. N'est-il pas lui aussi le Tout-Puissant? Regardez avec moi ce passage dans la première épître de Pierre au chapitre 5. C'est un texte que j'aime beaucoup parce qu'il est chargé d'une promesse extraordinaire. Première épître de Pierre au chapitre 5. Dans les versets précédents que vous connaissez, il nous invite en particulier à résister au diable qui est un lion rugissant. Au verset 10, il dit ceci. Premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 10. « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. » Voilà le Dieu qui ne nous laisse pas là où nous sommes, le Dieu qui veut nous transformer, qui veut modifier, changer, arracher de nous les mauvaises habitudes que nous avons développer, dans lesquels nous nous sommes laissés aller avec le temps, mais il veut aussi enlever les mauvais plis du départ, faire de nous, finalement, de nouvelles créatures. Ça, c'est la bienheureuse espérance. Le Seigneur ne veut pas me laisser tel que je suis. Le Seigneur veut me changer. Le Seigneur veut me guérir. Et nous avons sans aucun doute, les uns et les autres, des maladies physiques. Si vous n'en avez pas, croyez-moi, ça va venir. Mais nous avons aussi ces souffrances que nous portons dans notre cœur dont le Seigneur voudrait nous guérir aussi et nous donner cette vie abondante qu'il a promis à ceux qui lui appartiennent, qui ne souffrent pas moins, mais qui ont les outils pour faire face à la souffrance. Cette transformation, elle ne va pas venir seulement à la résurrection où le Seigneur, d'un coup de baguette magique, va changer toute chose. Cette transformation, il veut l'accomplir déjà maintenant dans notre existence. Pensez un instant à ce que certains d'entre vous vous étiez autrefois. Souvenez-vous de là où vous étiez et pensez au parcours que le Seigneur vous a fait faire dans le temps pour vous amener jusqu'à aujourd'hui. Quand vous y pensez, vous réalisez à quel point le Seigneur a agi à la fois avec douceur, avec patience, mais avec puissance, pour faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. L'apôtre Paul reconnaissait qu'il avait lui aussi vécu cette expérience-là. Regardez dans l'épître qu'il écrit à l'église de Colosse, l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Voilà, vous étiez autrefois là-dedans, mais remarquez tout ce que le Seigneur a fait pour vous tout le long du chemin. Remarquez où il a été vous chercher et regardez où il vous a conduit maintenant. Mais ne croyez-vous pas qu'il pourra vous conduire encore plus loin pour vous préparer à son retour? Pensez-vous que sa puissance s'arrête à ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant? Ne pourra-t-il pas vous amener à cette situation dont on a lu le texte de tout à l'heure dans 1 Pierre? Il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. La bonne nouvelle, la bienheureuse espérance, c'est que le Seigneur veut me changer et qu'il en a le pouvoir. La quatrième composante de la bienheureuse espérance, c'est le jugement. Lorsqu'on parle de jugement aujourd'hui, on comprend d'abord mauvaise nouvelle, on comprend condamnation. Mais en réalité, en lisant les Écritures, le jugement, c'est la bienheureuse espérance. Regardez par exemple ce passage dans le livre des psaumes, le psaume 35, où David avait déjà compris cette vérité sur le jugement. Dans le psaume 35, au verset 23 et 24, David dit ceci. Psaume 35, versets 23 et 24. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause, juge-moi selon ta justice. Éternel, mon Dieu. David appelle le jugement de Dieu parce que pour lui, le jugement est bonne nouvelle. Et dans ce texte, le mot qui est employé, juge-moi, c'est un mot qui veut dire réhabilite-moi, rends-moi ma place. C'est exactement ce que le jugement représente. Le jugement n'est pas d'abord la condamnation, il est la réhabilitation des enfants de Dieu dans leur situation d'héritier du royaume des cieux. Dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 8 et au verset 14, se trouve l'annonce de ce jugement à la fin des temps. Et pour nous faire comprendre ce qu'il veut dire, ce jugement nous est présenté avec l'image de l'Ancien Testament par rapport à la fête des expiations. Parce que la fête des expiations dans l'Ancien Testament représentait le jugement à la fin des temps. C'était un jour solennel. Mais c'était aussi bonne nouvelle parce qu'on remettait les compteurs à zéro, parce qu'on retrouvait un lien solide pur et vrai avec Dieu. C'était la fête des expiations, où Dieu expiait le péché du peuple. La prophétie nous fait comprendre que ce jugement a commencé dans le ciel il y a plus d'un siècle et demi. Mais le fait que le jugement ait commencé dans le ciel il y a plus d'un siècle et demi est pour nous une bonne nouvelle. Parce que si nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur, nous attendons avec impatience d'être enfin reconnus devant l'univers entier comme les héritiers du royaume des cieux. Lorsque ce jugement sera terminé, enfin Jésus pourra revenir. Ce jugement consiste à savoir qui est sauvé et qui ne l'est pas. Regardez ce passage dans le livre des psaumes, psaume 98. Psaume 98. À partir du verset 6, il est dit ceci. Avec les trompettes et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Le monde entier, la terre entière se réjouit, remercie le Seigneur parce qu'il vient pour juger la terre. Le jugement, c'est la bienheureuse espérance. Le Seigneur veut donner à son peuple la grâce de sortir vainqueur dans le jugement. Je sais que le monde d'aujourd'hui ne veut pas entendre parler de jugement dans les Écritures. Le problème, c'est que le monde chrétien d'aujourd'hui, qui ne veut pas entendre parler de jugement, ne veut pas non plus entendre parler de la loi de Dieu, parce que les deux vont ensemble. Mais le Seigneur a un plan par lequel il veut faire passer ses enfants par le jugement et les rendre vainqueurs. Il le dit clairement, « Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Mais s'il est mon avocat, qui va craindre de perdre sa cause ?» Jésus dans le ciel, maintenant dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, présente son sang au Père. « mon sang, pour couvrir ceux qui lui appartiennent. » Et nous avons aujourd'hui la grâce de pouvoir être de ceux-là qui attendent le jugement, la fin du jugement avec impatience, sachant que Jésus plaide son sang pour chacun de ceux qui lui appartiennent. La bienheureuse espérance, c'est aussi le jugement à la fin des temps. Le cinquième ingrédient de la bienheureuse espérance, c'est la promesse de la résurrection. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 40, il est écrit ceci. Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Au dernier jour. La bonne nouvelle de la résurrection. Un petit peu plus tôt, au chapitre 5, dans le même évangile, il est écrit ceci au verset 28. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 28, Jésus dit ceci. « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Vous avez déjà imaginé ce spectacle où ceux qui sont dans les tombeaux vont entendre la voix de Jésus les appeler à la vie? La bienheureuse espérance, c'est la bonne nouvelle de la résurrection. Alors je sais, lorsque l'apôtre Paul a parlé de cela à Athènes, tous les sages de son temps étaient morts de rire parce qu'il a parlé de la résurrection. Mais lorsqu'on est à la veille de la mort, lorsqu'on voit les années s'égrener et que l'on voit venir la fin, on sent que ce n'est pas la nature que nous mourions et on s'accroche à la vie. Parce que nous sommes faits non seulement pour la vie, mais nous sommes faits pour la vie éternelle. À chaque enterrement, nous parlons de cette bienheureuse espérance de la résurrection lorsque Jésus reviendra. Ce sont les mots de consolation que nous donnons aux familles en deuil. Mais il faudra bien un jour que cette résurrection arrive, qu'elle se passe. Il y a un jour où les tombeaux vont s'ouvrir et où ceux que nous aimons vont en sortir. C'est une réalité que nous avons du mal à imaginer. Mais pensez au moment où Jésus revient, ce moment-là, où pour la seule fois de toute l'histoire, tous les sauvés seront ensemble, vivants, au moment où Jésus revient. Vous imaginez de tous les coins du monde et de toutes les plages du monde venir et se lever dans la vie ceux qui, durant les 6000 ans de l'histoire de l'humanité, se sont endormis dans l'espérance de la vie éternelle. La bienheureuse espérance, c'est la bienheureuse espérance de la résurrection. Plusieurs d'entre nous ont emmené à la terre des êtres chers. Et sans aucun doute que dans les années qui viennent, ça va se reproduire encore. Peut-être que nos enfants nous y conduiront, si le temps devait durer encore. Mais finalement, la bienheureuse espérance qui contient cette bonne nouvelle de la résurrection est pour nous beaucoup plus fort parce que ce n'est pas la résurrection dans un monde comme nous connaissons, ce n'est pas la résurrection dans un corps comme nous avons avec ses misères et ses limitations, c'est la résurrection pour la vie éternelle avec le Christ. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, l'apôtre Paul nous rappelle que cette bienheureuse espérance de la résurrection se double d'un miracle extraordinaire. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, au verset 51, il dit ceci. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Ceux qui se sont endormis dans la mort se ressusciteront immortels, glorifiés, comme nous dit le texte. Mais ceux qui seront vivants vont être changés en un instant. Ne me demandez pas comment le Seigneur Jésus va faire ça, mais je sais qu'il le fera. Je sais qu'il le fera parce qu'il l'a fait. Il l'a déjà fait pour Élie. Il l'a fait aussi pour Moïse qui, lui, passait par la mort. Il l'a fait pour montrer que ce qu'il dit, il le fait et il le fera pour nous et pour ceux qui sont dans leur sépulcre aujourd'hui. La bienheureuse espérance, c'est aussi la bonne nouvelle et l'assurance de la résurrection quand Jésus reviendra. Et puis, bien sûr, le sixième ingrédient, la sixième composante de cette bienheureuse espérance, c'est la promesse du retour de Jésus. Vous connaissez ce texte dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, où Jésus dit « Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est la description la plus claire, la plus solennelle que Jésus fait pour nous assurer de son retour. Il nous dit qu'il va venir nous prendre avec lui. Il ne dit pas qu'il va venir rafistoler le monde pendant un certain temps pour que ce soit vivable et acceptable. Ce monde n'est plus acceptable parce qu'il est pourri par le péché. Par conséquent, le Seigneur, lorsqu'il fait quelque chose, il le fait entièrement. Chaque génération a pensé que cet événement se passerait de son temps. Chaque génération y a cru. Les disciples déjà pensaient que Jésus allait revenir. Madame White, dans son livre « The Faith I Live By », rappelle combien, dans le passé, les réformateurs vivaient de cette bienheureuse espérance du retour de Jésus. Elle écrit ceci. « Cette vieille terre n'est pas loin de sa fin, disait Mélenchon. Calvin encourageait les chrétiens à ne pas hésiter à désirer ardemment le jour de la venue de Jésus comme le jour le plus heureux. La pensée de la venue du Seigneur, disait Baxter, me remplit de douceur et de joie. » Tous ceux qui ont trouvé en Jésus-Christ leur Sauveur et qui ont étudié les Écritures pour le connaître au plus qu'il est possible de le connaître, se sont réjouis d'apprendre que celui dont il est question dans les Écritures a promis de revenir. Alors il nous est encore difficile d'imaginer comment ça va se faire. Nous avons peut-être devant les yeux les images, les dessins, les peintures que les artistes ont fait pour reproduire cet événement. Nous n'avons pas idée de la gloire que le Seigneur peut manifester dans sa venue. Mais le plus extraordinaire, ce sera la possibilité de voir Jésus. Parce que nous lui parlons dans notre prière, nous lisons sa vie dans les évangiles, nous le trouvons dans l'Ancien Testament à l'action pour son peuple. Nous imaginons Jésus sur la croix, et le christianisme d'aujourd'hui a reproduit cette croix partout comme si le Christ était mort et qu'il l'était encore. Mais celui qui a promis de revenir est vivant. Et son retour nous donnera l'occasion de le voir face à face. Difficile à imaginer, difficile à croire. C'est un peu comme à l'époque de Noé, où tout le monde pensait que tout allait continuer comme ça avait duré pendant déjà longtemps. Même ceux qui ont travaillé à la construction de l'arche ont pensé que finalement les choses allaient durer encore et n'ont pas jugé opportun d'entrer dans l'arche quand ils ont été appelés. Beaucoup d'entre nous peut-être pensent encore que le monde va durer, continuer comme ça encore longtemps, suffisamment longtemps pour que nous puissions réaliser nos rêves. La bienheureuse espérance, c'est la bienheureuse espérance du retour de Jésus. Et dans nos pays occidentaux, nous voudrions peut-être que le monde continue à tourner pour que nous puissions réaliser nos rêves, mais dans la plupart des pays du monde, on attend que ce monde s'arrête pour que le cauchemar s'arrête en même temps. C'est pourquoi la bienheureuse espérance, c'est celle de la venue de Jésus. Et puis finalement, le dernier ingrédient de la bienheureuse espérance, le septième ingrédient, c'est la nouvelle terre. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 13, il est écrit ceci. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 13. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Jésus nous a promis à son retour de nous prendre avec lui. Mais ce n'est pas encore la fin de la grande controverse. Dans la parole de Dieu se trouve la promesse de la nouvelle terre, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Quand vous prenez le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, se trouve cette parole au verset 5. Celui qui est assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Dieu veut faire toutes choses nouvelles. On va retourner à la case départ, parce qu'au départ, le Seigneur voulait que l'humanité vive éternellement. Le péché a tout détruit. Mais Dieu va fermer cette grande parenthèse du péché et faire toute chose nouvelle. En lisant le livre du prophète Ésaïe dans les derniers chapitres, Dieu parle par le prophète et dit « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Un jour, le Seigneur va fermer cette parenthèse qui, dans le schéma de l'éternité, ne sera plus qu'une petite poussière quand on la compare avec le temps que le Seigneur donne à ses enfants pour toujours. Mais lorsque vous lisez l'Apocalypse, vous réalisez que la nouvelle terre devient en réalité le nouveau centre de tout l'univers de Dieu. Où est Dieu? Où est sa maison? Je ne sais pas. Nous disons « Dieu est au ciel ». Mais j'apprends en lisant le livre de l'Apocalypse que le Seigneur veut faire de la nouvelle terre sa nouvelle demeure. Et il le dit d'une façon répétitive dans les derniers chapitres, chapitre 21 et chapitre 22 de l'Apocalypse. Dieu lui-même sera avec eux, avec eux, avec eux. Il n'y aura pas de temple parce que Dieu lui-même sera là, au milieu d'eux. C'est dire que Dieu veut faire de cette nouvelle terre le nouveau centre de l'univers aussi loin que vous pouvez imaginer qu'il va. Alors vous pouvez laisser votre imagination devenir la plus folle possible, vous resterez encore en dessous de ce que le Seigneur va faire sur la nouvelle terre. Dieu lui-même sera avec eux. Alors je me pose la question ce matin, la bienheureuse espérance dont parle l'apôtre Paul dans l'épître qu'il écrit à Tite, qu'est-elle devenue pour ceux qui ont prêché le retour de Jésus depuis 150 ans passés maintenant? S'est-elle atténuée? S'est-elle transformée? S'est-elle finalement réduite dans une espérance matérialiste? Qu'est devenue pour vous la bienheureuse espérance? La bienheureuse espérance est-elle encore ces sept éléments-là que l'on trouve dans la parole de Dieu et qui sont en réalité le cœur du message que nous avons à transmettre au monde d'aujourd'hui? C'est l'évangile éternel. Alors ce matin, je voudrais signer cette lettre en disant « Yours in the blessed hope », cordialement dans la bienheureuse espérance.